l'été.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap. Tout de suite, on vous parle des sorties de la semaine avec au programme le très attendu retour du plus célèbre pilote d'avion. On parlera aussi du nouveau film de David Cronenberg qui a été présenté au Festival de Cannes. Et enfin, d'une bande d'hommes à bout qui partent en stage de détox pour vaincre leur déprime. Et depuis le début de cette émission, je suis en tête à tête avec Franck Vallière. C'est assez agréable, Franck. Je dois le dire.
Juste assez agréable. C'est plus haut. C'est plutôt agréable, comme les épinards, quoi.
Bah non, mais je pense à mon deuxième enfant, Victor Bonnefoy, qui lui est toujours à Cannes sur la croisette, mais ne vous inquiétez pas, il sera un peu avec nous à distance.
Alors, c'est une sortie de garde à vue, bien sûr.
Évidemment, mais ça ne fallait pas le dire. Je l'attendais, vous l'attendiez, on l'attendait tous. Top Gun Maverick est enfin en salle et c'est un moment inoubliable. Pete Maverick Mitchell est de retour à l'école Top Gun. Alors non pas pour voler cette fois, mais pour former la nouvelle génération pour une mission extrêmement périlleuse. Il y a tout, je vous rassure, la musique, la tension, l'adrénaline, cette nouvelle génération qui confronte l'ancienne et même une apparition de Val Kilmer.
Capitaine de vaisseau Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc. Vous n'étiez pas mon premier choix.
Et c'est reparti.
On va devoir se battre, comme aucun pilote ne l'a fait avant nous. Même pas lui.
Là-haut, tu penses, t'es mort. Fais-moi confiance.
Mon père avait confiance en vous. Je ferai pas la même erreur.
Alors, Franck ?
Eh bien, c'est pas compliqué. J'étais adolescent quand j'ai vu Top Gun en salle, et là, dès les premières secondes, dans le noir, j'étais comme quand j'avais 14 ans. C'est-à-dire que le film rend hommage, et strictement hommage, à trois choses. Sa star, Tom Cruise,
oui.
La testostérone de sa star, et les de sa star. Donc, on est fantastiquement bien installé, si ça marche comme une Madeleine de Proust, si on a vu ce film-là en salle. Joseph Kosinski, le mec qui a quand même réalisé Oblivion avec Tom Cruise, bel univers visuel, il rend hommage, et c'est sans doute ce qu'il y avait de mieux à faire pour ramener un peu les gens en salle, parce que, rappelons-le, le box-office, il n'y a que des films de super-héros, donc que les jeunes, on va dire, qui vont au cinéma. Donc, en ravivant la flamme d'un Top Gun qui a 36 ans, on remet au goût du jour le potentiel cinquantenaire qui a vu le premier opus en salle et qui pourra peut-être venir. D'ailleurs, je crois que les scores sont absolument incroyables pour cette première journée. Voilà, donc c'est hyper bonheur, en fait, de voir Tom Cruise dans un cockpit, en fait, simplement.
Et ça fait toujours plaisir, oui.
Pas pour toutes les scènes, mais quand même, on sent qu'il y a de la gravité, de la pesanteur dans ces scènes-là. Un film avec Jennifer Connelly, bon, ne peut pas être un mauvais film. Voilà. Donc elle joue son pendant féminin. On peut dire qu'elle porte un petit peu les cafés, mais l'univers de Top Gun est de base tellement testostéroné que, de toute façon, il n'est pas question de prôner du féminisme. Tout est hyper codifié. Ça rend hommage et c'est très beau et c'est un gros kiff.
On écoute tout de suite ce que Victor Bonnefoy en a pensé depuis Cannes.
Top Gun 2, c'est un peu tout ce qu'on attend d'un Top Gun, à savoir des tensions homoérotiques et des grosses cascades en avion. Et c'est un peu ce que fait Tom Cruise, encore une fois, dans ce Top Gun 2, où cette fois-ci, à la réalisation, il y a Joseph Kosinski, alors moi qui est un réalisateur qui me passionne, on en a parlé la semaine dernière dans Clap, mais il avait déjà fait Tron Legacy, donc justement, faire des suites, c'est un truc qu'il le connaît. Et justement, il rend hommage à Tony Scott dès la scène d'intro. Il y a des avions filmés au ralenti de la même manière que Tony Scott les filmait, mais il arrive à s'en affranchir pour créer le Top Gun de 2022, où on a toujours Tom Cruise qui fait du Tom Cruise, c'est-à-dire que si jamais ce que vous aimez c'est le Tom Cruise show avec Tom Cruise qui fait les grosses cascades et qui pilote des avions lui-même, c'est ce que vous allez avoir dans Top Gun 2. Il n'y a pas vraiment de surprise en fait. Si vous aimez Top Gun, vous aimerez Top Gun 2. Et si vous aimez les bons films, bah vous préférerez Jour de tonnerre à Top Gun. Et ça déjà c'est une autre histoire dans laquelle on va pas rentrer. Top Gun 2 ça reste plutôt un très bon moment et c'est typiquement le genre de film qui donne envie d'aller en salle parce qu'au moins on en prend plein les mirettes.
Je suis l'ancienne génération. Eh bien, j'ai adoré parce que j'ai retrouvé Tom Cruise avec toujours cette malice, cette énergie et c'était super.
C'est vraiment génial. Comme Tom Cruise, toujours égal à lui-même, c'est toujours pareil, c'est Maverick quoi.
Ah, c'était vraiment à la hauteur du premier, à la hauteur des attentes, le premier en mieux. Un bon rythme, des bonnes références au premier film, donc ça c'était sympa.
J'ai trouvé le film exceptionnel. Les scènes de vol sont à couper le souffle. J'ai été surpris par le scénario, je m'attendais pas que ça soit aussi bien. Magique. Mais vraiment magique. J'irai le revoir au cinéma encore.
Et puis Franck nous parlait de Jennifer Connelly. On va écouter justement Jennifer Connelly et Joseph Kosinski, le réalisateur, nous parler de Tom Cruise.
Comment était-il sur le tournage ? Je dirais passionné, d'une passion qui se propage à toute l'équipe. Tout le monde sentait son énergie et c'est juste vraiment génial de travailler avec lui.
Tom est vraiment extraordinaire. Il est tellement talentueux dans plein de choses différentes. Il est tellement enthousiaste dans tout ce qu'il fait tout le temps, tous les jours. Et c'est très contagieux et absolument fabuleux d'être à ses côtés. côté.
Voilà, donc Top Gun Maverick, film européen en ce moment au cinéma. Et on continue avec une comédie qui va vous faire du bien, c'est sûr, parce qu'elle fait du bien à tous les personnages du film. C'est Homme au bord de la crise de nerfs, le nouveau film d'Audrey Dana. C'est une comédie chorale, très drôle, qui aborde subtilement les tracas du quotidien et l'écologie aussi. C'est l'histoire de cet homme déprimé de 17 à 77 ans qui partent faire une thérapie au cœur de la nature. Une thérapie sans aucun réseau et dirigée par une femme avec des méthodes un peu spéciales.
Enfin, y'a rien là.
Laissez raisonner le mot, rien.
Y'a même pas de réseau.
Quoi, non.
Je vous assure que le monde peut fonctionner sans vous. C'est seulement 4 jours.
Oh putain. Oh, je peux te couper. Non, ça va. Ah si, putain, si.
Allez.
Moi, je veux une côte de bœuf et un rôti d'agneau.
Tu m'aides à cueillir les carottes?
Non.
Mais là, je crève là.
Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Toujours.
Oui, parfois dans la gueule aussi.
Vous savez ce qu'on vit là? On est en train de se tricoter des souvenirs.
Nous aussi, on se tricote des souvenirs en tant que clap.
Bah oui, absolument, bien sûr.
On a reconnu les voix de Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier de Maison, Marina Hans et plein d'autres.
Ouais, le casting est un inventaire à la Prévert. Laurence Stocker, Ramzy Bedia de Maison, Michael Gregorio, Domolon, Lhermitte, Max Bessette de Malgrève, qui est superbement drôle dedans.
Vous avez aimé?
Oui, écoutez, c'est très drôle. J'ai rencontré toute l'équipe au Festival de l'Alpe d'Huez au début janvier. Ça emprunte un petit peu à Furio, un petit peu à Calmos. Attention, pas pour l'univers de Blier, mais ces hommes qui vont partir à la redécouverte de leur masculinité contrariée. Filmé par une femme, on sent qu'elle a pris énormément de plaisir à les filmer. Il y a pas mal de trucs hyper improvisés, et même si par exemple Lhermitte se défendait d'avoir voulu faire de l'impro, Audrey Dana m'a avoué que dès le deuxième jour, viens on fait ça, ils ont recréé une vraie bande dans le Vercors, dans la région du Royan, une région que j'adore, et il y avait effectivement même pas de réseau le soir, donc ça les a évidemment rapprochés, et au final ça donne un film très tendre sur l'univers masculin filmé par Audrey Dana, dont c'est le troisième film.
Et enfin, on termine ce journal des sorties avec le retour au cinéma d'un grand réalisateur canadien, David Cronenberg, qui présente Les Crimes du Futur avec un casting 5 étoiles. Léa Seydoux, Viggo Mortensen et Kristen Stewart. Il était sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. Ils ont monté les marches. Un film de science-fiction assez perturbant qui raconte comment, dans une nouvelle ère, les humains transforment et modifient leur corps pour la prochaine évolution de l'espèce humaine.
Le temps est venu d'arrêter de voir. Le temps est venu d'écouter.
Un nouveau monde se dévoile.
Les émotions vous font peur.
La chirurgie, c'est le nouveau sexe.
Il s'éloigne à grands pas de l'humanité.
Sommes-nous devenus obsolètes?
Peut-être.
Franck Vallière.
Alors on est dans un monde un peu post-apocalyptique à la Houellebecq, c'est-à-dire que les fonctions corporelles sont un peu en berne, il n'y a plus trop de sexe, on mange même avec des assistants un peu, des machines un peu corporelles, mais dont bien sûr le réalisateur a le secret, puisqu'on tourne autour des mêmes obsessions, le transhumanisme, le corps-machine, etc. Et dans un monde où on ne ressent plus la douleur, ni même dans lequel il n'y a plus d'infection, le plaisir pourrait naître notamment de la transformation du corps. C'est, sur le coup, la proposition est, on met un quart d'heure à s'y mettre, à dire attends, on est où là exactement, ce qui se passe. Puis il y a vraiment, c'est pas un Cronenberg qui va vous perdre dans des limbes complètement incompréhensibles, contrairement à certains de ses précédents films. Et accessoirement, il y a un truc que j'aime beaucoup, mais en sous-texte, il y a un truc sur quel est le rôle de l'art, est-ce que c'est du foutage de gueule, comment est-ce qu'on glorifie quelque chose qui est de l'art. Mais ça, c'est du sous-texte, je peux pas croire que Cronenberg n'ait pas eu de vérité là-dessous. C'est un grand Cronenberg qui restera malheureusement toujours aussi hermétique pour ceux qui laissent en chemin habituellement.
Et on écoute tout de suite la réaction de Victor Bonnefoy.
Je l'attendais beaucoup, ce Crimes of the Future, parce que les dernières propositions de cinéma de Cronenberg étaient pas les trucs qui m'avaient le plus passionné, pour être tout à fait honnête. Moi, toute sa vibe un peu réaliste, type Dangerous Method, Cosmopolis, Map to the Stars, j'y étais pas du tout sensible, et savoir que Cronenberg allait revenir justement à de la véritable science-fiction, à une forme de body horror, ça me plaisait vachement. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce Crimes of the Future, qui est beaucoup plus que juste ce qu'on en a vu, à savoir la chirurgie, c'est le nouveau sexe, et on va tripatouiller les entrailles des gens et rouler des pelles à des plaies ouvertes, ce qui est véritablement présent dans le film. Non, là, ici, le but, c'est avant tout d'avoir une réflexion sur le cinéma. Qu'est-ce que c'est que la facticité d'un certain cinéma? Et c'est toute la réflexion de Cronenberg. D'avoir un personnage principal qui est Cronenberg et qui arrive à créer de la nouveauté, qui arrive à créer sa propre forme d'art à partir de ses entrailles, et comment des gens autour de lui viennent créer du synthétique, viennent créer du faux, ce qui est un peu ce qui peut symboliser le cinéma actuel, à savoir les véritables artistes opposés à ceux qui créent du synthétique, du coup, que les gens bouffent à répétition. C'est vraiment plutôt passionnant, Crimes of the Future, qui m'a un peu désarçonné. Je suis encore en train de me poser des questions dessus, même quelques jours après l'avoir vu. C'est pas le truc le plus facile d'accès de Cronenberg. Ça renvoie directement à Vidéodrome, à Existence. Si vous aimez ce cinéma-là de Cronenberg, ça va particulièrement vous plaire.
Avant de se quitter, je voulais vous parler de la toute première édition d'un festival de cinéma engagé, le Festival du film de demain, à l'initiative de Louis-Julien Petit, le réalisateur des Invisibles ou encore de La Brigade. L'identité de ce festival, c'est l'échange, le débat, l'éveil de la conscience citoyenne de chacun et surtout la transmission vers la nouvelle génération. Avec dans le jury, par exemple, Xavier Legrand, réalisateur de Jusqu'à la garde, un film sur les violences conjugales pour lequel Léa Drucker a remporté le César de la meilleure actrice en 2019. En tout, il y a 9 films en compétition. C'est un beau programme qui vous attend si vous êtes du côté de Vierzon. Ce sera du 2 au 5 juin. Et si vous voulez plus d'informations, c'est sur le site filmdedemain.fr. C'est déjà la fin de ce clap. Merci à tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, je recevais Alice Paul pour nous parler du film C'est magnifique qui sera en salle la semaine prochaine, mercredi 1er juin. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de William Lémergie. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct de Roland-Garros et en compagnie de Franck Vallière et Victor Bonnefoy. Merci.
Chouette.
Franck.
Bon week-end.
À la semaine prochaine et bon week-end à vous à l'écoute d'Europe.